popped up. Left side. Yamamoto goes the distance again. World Series mastery. Yoshinobu Yamamoto.
C'est pas que Kevin Gausman n'a pas été bon en fin de semaine. Il s'est très bien débrouillé sur la butte, mais il a été supplanté par un lanceur qui était au sommet de son art, Yoshinobu Yamamoto, deuxième départ de suite où il complète la distance. On va parler avec Marc Griffin. Salut Marc.
Salut Marc.
Salut les gars.
Ça va bien?
Ben écoute, ça va super bien en pleine série mondiale, why not?
Ben oui, c'est sûr que c'est le fun. Puis Marc, je te l'apprends tout de suite, là. On va se parler pas mal toute la semaine. Fait que j'espère que tu vas être de bonne humeur. Écoute, je pense que...
de bonne humeur? Non, non, non. Qu'est-ce que c'est ça, ce commentaire-là?
Ben non, mais dans le sens...
Qu'est-ce que
c'est ça? Ben c'était pas une pique, là. Qu'est-ce que tu fais là? J'espère qu'on va être du fun ensemble. Excuse-moi Marc, là, c'est mal exprimé, là. Marc, je pense que le plan est clair. Du côté des Blue Jays, c'est une évidence. Il faut être capable de sortir le partant le plus rapidement possible du match pour s'attaquer à leur relève. Mais par contre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ils n'ont pas été capables de le faire contre Yamamoto lors du deuxième match.
Bon, écoute, Yamamoto, là, premièrement, là, est-ce que c'était fun de voir un duel de lanceurs de même? Moi, je trouve que c'était fantastique.
Mais ça.
Gausman qui suivait coup sur coup, évidemment. Bon, Gausman... Je dirais pas flancher, il était tellement bon, mais écoute, Yamamoto, là, honnêtement, là, je pense qu'il aurait pu lancer 4 autres manches. Il dominait tellement, ça avait l'air tellement facile. Mm-hmm. C'est une des belles prestations qu'on a vues. Ça nous rappelle, tu sais, les bonnes années de Greg Maddux. Gilbert, tu vas te rappeler des bonnes années
Ben oui, ben oui.
Tu sais, alors que, puis là, ben, c'était encore, je dirais, même plus impressionnant dans le sens qu'il y a plus de lancers que Maddux, il contrôlait tout. Pardon. Fait que, je trouve ça fantastique. Puis je sais pas si vous avez remarqué les images, mais à la fin du match, Yamamoto, évidemment, salue tout le monde, high five, tout le monde, bon, ça va dans l'abri. Puis là, tout le monde a quitté l'abri des Dodgers. Et qu'est-ce que fait Yamamoto?
Il a ramassé Vidange.
Il nettoie l'abri complètement. Ben, oui. Ça, là, c'est typique des joueurs japonais, soit dit en passant.
C'est vrai.
Là.
La propreté.
Oui, c'est vrai.
Exactement. Alors, lui, là, le respect de la game, le respect, il dit, moi, je m'en vais nettoyer, je m'en vais jeter ce qui reste. Je trouve ça fantastique. C'est une belle image qu'on a vue là-dessus. Mais tu as raison de mentionner, Anthony, c'est assez évident, là, la stratégie des Blue Jays de Toronto. C'est fais lancer ton partant, c'est-à-dire fais... Force le partant adverse à effectuer beaucoup de lancers, sors-le, puis amène les releveurs des Dodgers pour... Tu sais, ils sont vulnérables. Bon, c'est vraiment la stratégie. Comme tu l'as dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut pas, du côté des Blue Jays, changer de stratégie. Tu sais, il faut continuer à être agressif, il faut continuer à s'élancer sur des prises, il faut continuer à forcer, tu sais, avoir des bonnes présences, des présences de 6, 7, 8 lancers. C'est comme ça qu'on va venir à bout les Dodgers. Là.
Ouais, puis tu sais, c'était une grosse thématique avant le match. D'un côté, t'as une équipe qui fait énormément contact avec la balle, et de l'autre côté, t'as des artilleurs qui ont beaucoup d'étoffes, qui sont capables de faire élancer les frappeurs sans contact. Le contact contre le whiff rate, c'est vraiment comme ça qu'il faut le décrire. Et malheureusement, Yamamoto, ben, il avait le dessus. Plusieurs fois, les frappeurs des Jays se sont élancés sans être en mesure de toucher à la balle, puis c'est pas pour rien qu'il est allé récolter tous ses retraits sur des prises-là.
Exact. Par contre, dans le cas de Glasnow ce soir, il n'y a pas le répertoire de Yamamoto. Il a une très bonne balle rapide, il a une très bonne balle courbe lente, et une bonne balle glissante. Alors, ça va probablement permettre aux Blue Jays de placer plus de balles en jeu, donc de faire contact. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que Glasnow est pas bon, là. Au contraire, là, il peut être très, très, très dominant, mais je pense que c'est le type de lanceur qui pourrait permettre à l'attaque des Blue Jays de retrouver un peu leur repère à ce niveau-là.
Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Max Scherzer ce soir?
Écoute, un peu comme la dernière fois, Gilbert, tu t'en rappelles, on s'est dit c'est tout ou rien. Moi, tu sais, on va se le dire, là, c'est un gamer, là, Max Scherzer. Là. C'est un gars qui veut être là, c'est un gars qui est intense, mm-hmm. semble être en santé, mais toujours vulnérable pour la longue balle. Ça, c'est toujours le critère dans le cas de Max Scherzer. Ça a été le même toute sa carrière. Vulnérable à accorder le coup de circuit. Donc, il faut quand même déjà avoir un plan B derrière lui. Mm-hmm. Alors, est-ce que ce sera Eric Lauer qui va suivre si jamais ça va moins bien? Mais tu sais, regarde, il n'y a rien qui nous laisse croire que ça va moins, tu sais, ça ira pas bien. Là. Moi, je pense que d'ailleurs, lorsque Scherzer était avec les Dodgers, rappelez-vous, il n'y avait plus de gaz à la fin de la saison. En série, il n'était plus capable de le lancer. Mm-hmm. Il y a encore des petites choses à prouver, notre ami, je pense. Puis surtout à Los Angeles, ben, quel gars va donner tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est clair.
Ah oui, ça c'est sûr et certain. Il va avoir tout un accueil du côté de Los Angeles. Puis il va falloir qu'il réponde justement à cette foule qui sera probablement hostile. Marc, tu sais, Yamamoto, c'est vrai qu'il a été dominant. Mais je pense que les Jays, ils ont eu leur chance en début de match. Springer a frappé un double. De mémoire, c'est Lucas ouais. qui suivait après ça avec un autre coup sûr. Et là, après ça, on se présente avec un coureur au premier, un coureur au troisième. Aucun retrait. On peut assurer la réplique immédiatement parce que les Dodgers ont pris les devants en première manche. On n'a pas été en mesure d'aller marquer des points là. Deuxième manche, une chandelle d'Ernie Clement. Freddie Freeman la rate complètement. Autre opportunité, on n'est pas capable de saisir encore. Je pense que les Jays, on n'a pas le choix. À chaque fois que les Dodgers ouvrent la porte, il faut mettre le pied dedans.
Ouais, puis surtout tôt dans le match, lorsque vous affrontez un bon lanceur, évidemment, il n'y en aura pas de mauvais dans cette série-là, mais des lanceurs dominants, il faut que tu les attaques tôt. Parce qu'ils n'ont pas encore leur rythme, ils n'ont pas encore trouvé exactement le confort au monticule avec tous ces tirs. C'est là qu'il faut que tu en profites. Parce que tu le savais que plus le match allait aller, plus Yamamoto allait retrouver son répertoire, son rythme, tous ses lancers. Alors oui, c'est effectivement, faut pas que tu rates trop de chances comme ça. Mais encore une fois, moi je pense qu'il faut vraiment lever notre chapeau à Yamamoto. Mm-hmm. Toi, dit en passant, dans le jeu de Freddie Freeman, bon, les gens vont dire « Ouf, c'est une grosse erreur. En fait, il aurait dû saisir la balle. » Oui, il aurait dû saisir la balle. Pas un jeu aussi facile que ça en a l'air, soit dit en passant, mais il va falloir faire une révolution des marqueurs. Là, mais ça sera pas de bon sens. Tu sais, pas parce qu'il a touché à la balle qu'il faut pas... Tu sais, la règle en ce moment, là, c'est que s'il touche pas à la balle, on donne un coup sûr. Mais pourquoi? Tu sais, je veux dire, vraiment, est-ce que dans les ligues majeures, ce jeu-là, cette balle-là doit être saisie?
Ben oui, c'est une évidence.
La réponse est oui.
C'est une évidence.
Alors, c'est oui, ben, donner une erreur. Tu sais, ça change rien au match, là. Ça change rien que si les Blue Jays marquent ou marquent pas. Mais je trouve que les marqueurs officiels, on s'est pas mis à jour dans le baseball moderne. Juste ouais. une petite parenthèse que je voulais mentionner là-dessus.
Je pense que parfois, c'est parce que, mettons, t'as une confusion entre deux voltigeurs sur un ballon facilement captable. On sait pas à qui attribuer l'erreur. On pourrait-tu faire comme dans la NFL où est-ce qu'on attribue des demi-sacs? Deux joueurs ont uni leur effort pour mettre à terre le carrière. On donne un demi-sac. Ben, dans la MLB, une balle qui tombe entre le voltigeur, le champ centre et le champ droit.
Fait que erreur 8-9.
Demi-erreur ou erreur aux deux. Ou peu importe.
Même une erreur d'équipe. Même une erreur d'équipe. Pourquoi mettre une erreur à un joueur? Tu peux mettre une erreur d'équipe. Là, c'est une erreur, comme tu l'as dit. On donne une erreur. Parce que là, le lanceur, ses statistiques en série, il s'en fout pas mal. Là. Mais je veux dire, en saison, là, c'est un jeu comme ça, puis bang, c'est peut-être 3 points mérités après ça, alors que finalement, si la balle avait été saisie, ben, il n'y aurait pas donné de points. Donc, là, pour dire que, tu sais, donne une erreur d'équipe. Tu sais, modernisons un petit peu cette façon-là de voir le baseball.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Marc. Hey, je veux t'amener sur Bo Bichette. On l'a vu, il était partant dans le match numéro 1. Il a été retiré à un certain moment. Moi, j'étais bien d'accord avec ça, puis c'était bien correct. Sauf que, oups, il n'était pas partant dans le match numéro 2. Comment tu vois la situation, Bichette? Comment est-ce que tu vois son utilisation pour la suite de la série?
Ouais, tout évident, il n'était pas à 100% le lendemain. Écoute, il va jouer. Il va être dans la formation partante aujourd'hui. Il va jouer au deuxième but. Et là, ben, ça va être de surveiller comment il va réagir. Clairement, c'est pas parfait, mais je pense qu'un Bichette, la façon dont il a joué, même s'il c'est pas 100%, c'est quand même une option, surtout en attaque, là, qui est pas mal plus intéressante. Ça va être vraiment au jour le jour. Moi, je pense que la journée de congé d'hier va permettre à Bichette de faire d'autres traitements. Là. Mais c'est sûr que la formation offensive, là, tu regardes avec ça, avec Bichette, ça donne vraiment un oomph de plus là, à cette attaque-là. Tu sais, je parle pas nécessairement de frapper des circuits, mais tu as vu le surballe qui a soutiré sur une très belle présence au bâton. Mm-hmm. Ben, ça avait donné beaucoup de vie, évidemment, à l'attaque des Jays dans le premier match. Insère-le si t'es capable, là, c'est sûr que c'est la façon de faire. Puis on verra après le match 3. Il est un match pivot, là, faut-il le dire. Hein? Match 3, là, je regardais en série mondiale, messieurs, lorsque c'est 1-1, le match 3, ben c'est 69% des équipes qui gagnent le match 3.
Okay. Les matchs pivots sont importants.
Ouais, c'est important d'être capable de ramener la série à Toronto. Là.
Mais ça, c'est très important.
Tu veux pas te faire avoir.
Surtout
là,
dans un 2-3-2 comme ça. Là.
T'as pas le choix. Ah ouais. T'as pas le choix. Je regarde Bichette, deux présents sur les sentiers dans le premier match, 2-3. Techniquement, c'est 1-2 plus un but sur balle, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, effectivement, c'est un joueur très important. Puis, il a même été capable de tourner. Tu sais, pour un joueur qui est pas habitué de jouer au deuxième, là, il a eu une remise d'Jimenez, puis ben, il a fallu qu'il fasse le jeu en pivotant. Fait que non, Bichette, il s'en est quand même bien tiré, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il pourra...
aussi. Je pense que c'est en première manche ou deuxième manche. Il est allé loin derrière le deuxième but, puis dans les airs, lancé vers le premier but.
Exact.
Aussi,
non, pour vrai, il a été efficace, puis j'espère qu'il en a encore un peu dans le réservoir pour être capable
c'est pas
d'aller...
Ça, c'est parce que, tu sais, on lancera pas pareil au frappeur précédent non plus, là.
Ça, c'est sûr.
Tu sais, c'est Bichette qui s'en vient au bat, là. C'est pas pareil, là. Tu sais, j'enlève rien à ceux qui étaient là à sa place, là, mais c'est pas pareil, là.
Hey. Ben, c'est pas pareil. Puis tu fais bien de le mentionner, Gilbert. Puis c'est ça quand, lorsqu'on appelle de protéger un frappeur.
Ben oui.
T'sais, si Vlad Guerrero, le gars qui frappe derrière Vlad Guerrero frappe 220, Vlad, il verra jamais une prise. Mm-hmm. Il verra jamais un bon tir parce qu'on sait qu'on va retirer le gars en arrière. Mm-hmm. Alors là, parce que tu mets un Bichette en arrière de Guerrero, puis après ça, tu mets un Kirk en arrière de Bichette, mm-hmm. tout le monde se protège. Et c'est là, s'il n'y a pas de fer dans ta formation, le lanceur va dire, écoute, je suis obligé de le défier. Alors, tu es obligé de défier Guerrero, tu es obligé de défier Bichette, mm-hmm. et c'est là qu'on peut faire du dommage. C'est pour ça que tu veux pas avoir de trou dans une formation, dans tes 9 frappeurs, parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a un qui va écoper, puis il n'y aura pas de bon tir.
Ah, ça, c'est sûr et certain. Marc, je sais que ça fait un plus longtemps, mais quand même, faut que je t'entende sur, oui, le circuit de Dalton-Varsho, qui était très important pour amener les deux équipes à l'égalité, mais le grand chelem d'Alison Barger. Je suis content pour Barger. Tu l'as dit, tu nous en as parlé la semaine dernière. Il a apporté des ajustements dans son élan, puis ça rapporte tellement. Là, il s'en a d'un frappeur transformé à la plaque.
Ah, écoute, moi je trouve que c'est une belle histoire. Il y a plein de belles histoires dans celle des Blue Jays, dans les certains joueurs, mais celle de Barger, là. Écoute, rappelez-vous, il avait été rappelé une couple d'années, on l'a vu, c'est pas un nouveau joueur, mais même pas commencé l'année avec les Jays. Moi je trouvais qu'il y avait quelque chose là, puis tu sais, certains le comparent à Josh Donaldson déjà, là. Mais tout ça pour dire que il s'est positionné comme un joueur régulier, ça c'est assez évident. Mais lorsqu'on parle de puissance pure, tu sais, la balle, quand elle sort de son bâton, là, elle explose. Mm-hmm. Tu vois que ce gars-là, là, lorsqu'il se présente au bâton, là, c'est pas juste pour faire contact. Hein. Lui, il est là pour démolir la balle. Il est là pour te faire mal. Et là, ce qui était encore plus impressionnant, c'est qu'il fait parfois autant sur des balles rapides que sur des balles à effet. Fait que ça, là, imagine-toi, là, si le gars prend un peu plus d'expérience puis de connaissance des lanceurs adverses, moi, je pense que les Blue Jays ont quelqu'un de bien, bien, bien de fun autour qu'on pourra évidemment aider à bâtir autour de Vlad Guerrero, mais avoir une attaque qui est solide, qui va permettre de la puissance comme ça, puis de le faire en série mondiale comme ça. Regarde, moi, je sais pas si vous l'écoutez en entrevue, mais ce gars-là, ça a pas l'air trop à le déranger ce qui se passe autour. Là, tu sais, moi, je me présente au bâton, puis j'essaie de frapper une bombe. C'est à peu près la philosophie qu'il a.
Exact. Match numéro 3 ce soir, 20h, et Marc, t'as été assez de bonne humeur, finalement, je te reprends demain.
J'espère qu'il y a des matins que j'ai pas semblé trop marabout.
Ben non, pas à tout. Zéro pin bar. Merci. Hey,
là, je vais vous dire quelque chose, les gars, là, c'est important. Là, ne réveillez pas l'ours qui dort. Je parle de Shohei Ohtani. Il est trop tranquille dans la série. Gardez-les tranquilles. Donnez-y rien. Parce que lui, quand il va exploser, les Jays sont dans le trou.
Dans son cas, c'est un panda. Hein.
Oui, c'est vrai. On peut voir ça comme ça.
Ohtani est trop tranquille. Ce qui m'inquiète un peu Scherzer à soir, ce sont les frappeurs gauchers des Dodgers.
Un petit peu plus
vulnérable sur les frappeurs gauchers. Alors, à surveiller ce soir.
Ouais, puis un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est Springer qui a été atteint à la main. Plus tard dans le match, il s'est élancé sur une troisième prise, puis ça n'avait pas l'air à y faire du bien.
Lui, c'est pas facile. Hein?
Ouais. Mais bon, on pourrait parler de balle pendant 2 heures, puis on n'a plus de temps. Mais merci, Marc, on se reparle demain.
Salut, Marc.